Voilà, on va demander à Benoît de fermer la porte. Voilà, merci beaucoup. J'aime souhaiter les vœux en disant que le Seigneur vous comble dans vos attentes les plus chères et donc qu'il vous accorde aussi la santé nécessaire à accomplir vos tâches respectives. Nous avons donc nos dernières 2 heures de rencontre. Je vous ai fourni une documentation qui vous permettra de continuer à approfondir la question. Je n'ai pas été très abondant dans la bibliographie parce que je crois qu'il ne faut pas être noyé par ces informations. N'empêche qu'elles sont importantes pour tenir compte de la problématique dans laquelle nous lisons aujourd'hui le 4e évangile. Et donc j'espérais, encore jusqu'à la fin de ce cours, profiter éventuellement d'une communication par voie informatique de la bibliographie, mais ce sera pour un peu plus tard, parce que désormais, je crois, nous pouvons nous attendre à pouvoir disposer de ces informations, non pas par feuilles qui prennent du poids et de la place, mais par des moyens technologiques performants. Vous avez aussi la petite feuille bleue, que ceux qui connaissent la maison, ceux et celles qui fréquentent cette institution connaissent bien, donc une institution qui se respecte, se critique et s'autocritique. Donc vous êtes invités à remplir cette feuille en la déposant à l'accueil. Donc l'introduction invite à ne pas laisser l'évaluation anonyme. Et donc vous pouvez savoir que ça va d'abord chez le président et puis que ça me revient pour que je tire profit de vos réactions. Nous avons encore une matière abondante avec ce dernier moment. Nous pourrions faire tout un cours sur Jean 20 et 21. Il y aurait largement place et temps pour honorer cette problématique à la fois intéressante et complexe. Je commence par revenir sur le texte sur lequel nous nous étions quittés l'an dernier. Nous avions traversé la première phase, ce qui m'apparaît comme la première scène, le premier tableau d'un triptyque, à savoir donc tout ce qui se trame autour de Marie de Magdala à propos de la rencontre avec Jésus ressuscité. Et pour revenir sur ce texte, en particulier pour sa conclusion, à propos de laquelle j'ai été rapide, je vous rappelle l'intérêt de lire ce texte de Jean 20, 1, 18 sur l'arrière-fond du Cantique des Cantiques. C'est certainement une des réminiscences majeures dans le Nouveau Testament de ce fleuron de la littérature sapientielle de l'Ancien Testament. Je vous relis simplement quelques versets du poème. Bon, la distinction de différents chants dans le Cantique des Cantiques est encore une question discutée. Je pense que le texte que je vous lis maintenant vient dans le découpage que j'adopte au 6e chant, c'est-à-dire après le cœur du texte, qui se noue dans un duo entre le bien-aimé et la bien-aimée, en 4:16-5:1. Et donc, dans le poème suivant, nous avons ce fameux verset, n'est-ce pas, ces versets qui servent de toile de fond à la scène que nous contemplons dans le 4e évangile. « J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais tournant le dos, il avait disparu. Sa fuite m'a fait rendre l'âme. » Donc, expérience de l'absence. « Je l'ai cherché, mais je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. Les gardes m'ont rencontré, ceux qui font la ronde dans la ville, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon manteau, ceux qui gardent les remparts. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui déclarerez-vous que je suis malade d'amour? Et oui, on voit bien, Marie de Magdala est éplorée parce qu'elle ne trouve pas ce qu'elle attend, ce qu'elle cherche. Elle cherche un mort et il est vivant. Et ça, ça demande évidemment un changement, une conversion assez radicale, exprimée dans notre texte, comme nous l'avons déjà lu rapidement, au verset 14. Elle fut tournée vers l'arrière et elle contemple Jésus s'étant tenu debout et elle ne savait pas qu'il est Jésus. Donc, premier mouvement, elle doit opérer un premier retournement et c'est remarquable. Elle contemple, donc le deuxième verbe, plus proche du point de vue de la vision que simplement regarder, blépein, de loin, elle contemple au présent, donc avec un principe d'actualisation permanent dans le texte, elle contemple Jésus s'étant tenu debout. Et c'est une constante, non seulement des récits de la résurrection dans Jean, nous le verrons encore dans le chapitre 21, mais depuis le début. Le témoignage de Jean insiste sur la naissance, la non-connaissance, ce qui respecte le mystère. Donc, je crois que là, il y a un principe pédagogique souverain. Quelque expérience que nous puissions avoir de la rencontre avec le Christ, que ce soit dans le contexte de la vie publique ou que ce soit dans le contexte de Pâques, mais enfin, quelqu'un comme Jacques Lacan, n'est-ce pas, le grand psychanalyste fondateur de l'école freudienne de Paris, insistait beaucoup, du point de vue simplement psychologique, anthropologique, le savoir se profile sur fond de non-savoir. En particulier dans la foi, mais déjà dans la vie, dans l'existence. Et consentir à ne pas savoir est souverain, est nécessaire pour avoir accès au réel. Sinon, on est englouti par la science, par la connaissance, et à la limite, cela paralyse. Donc, elle ne savait pas qu'il est Jésus. Et il lui dit Jésus, femme, ah, c'est, voilà, ça c'est le premier principe de récapitulation de beaucoup d'éléments, beaucoup d'événements. La première fois que Jésus dit femme, c'est à la mer, à Cana. Et puis, c'est à la Samaritaine, et puis c'est à l'adultère, au chapitre 8. Voilà. Donc, c'est l'époux qui parle. Et maintenant, il parle en position de ressuscité. Qu'a-t-elle vu, qu'a-t-elle entendu? Nous ne savons pas. Nous n'avons, en quelque sorte, pour nourrir notre foi, que le texte qui est à valoriser dans toutes ses virtualités. Et ce qui est évidemment remarquable, c'est que les premiers mots de Jésus vivant reproduisent exactement les premiers mots de l'ange, des anges, femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Avec une petite nuance implicite, n'est-ce pas? Il n'y a pas de quoi. Hein? Mais il ajoute, et ça c'est un nouveau principe de récapitulation pratiquement de tout l'évangile. Hein? Nous avions vu que la toute première parole de Jésus, c'est « Que cherchez-vous ?» aux deux disciples sortis des rangs Baptiste pour le suivre. Que cherchez-vous ? Ce matin, à l'Eucharistie de communauté, Charles-Henri O'Neill donnait la traduction, n'est-ce pas ? Vous cherchez quoi ? C'est bien. C'est, que cherches-tu ? C'est encore une manière un peu élégante. Mais vous cherchez quoi ? À la recherche de quoi vous trouvez-vous ? N'est-ce pas ? Or, ici, il y a quelque chose de semblable. Qui cherches-tu ? Tu cherches qui ? Finalement. Hein, c'est... Donc, le point d'aboutissement de toute cette quête dans la rencontre avec Jésus qui caractérise l'itinéraire de tout disciple. Et celle-là ayant l'opinion qu'il est le jardinier, lui dit « Seigneur ». Ah, elle lui dit quand même « Seigneur », mais vraisemblablement au sens le plus restreint du terme. C'est une manière aussi de dire « Monsieur hein, », jusque dans l'hébreu moderne, semble-t-il. « Si toi tu le chargeas, dis-moi où tu le posas, et moi, je l'enlèverai. » Elle n'est pas sortie de, au fond, sa quête de retrouver celui qui a été en quelque sorte ravi. Hein. Il y a eu un rapt. Hein. Et donc elle veut en quelque sorte récupérer le fruit de ce rapt. Alors voilà, on a toujours en quelque sorte crainte de commenter le verset suivant qui met alors en relation les deux noms, hein, ce qui est tout à fait sémitique. Hein. Marie. Ayant été tourné, et voilà le deuxième mouvement, est-ce qu'elle pivote sur elle-même ? On ne sait pas trop, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment une démarche de conversion traduite aussi par un mouvement physique qui est suggéré. Celle-là lui dit en hébreu « Rabbouni » et on retrouve cette technique que nous trouvions depuis le début du récit évangélique, d'un mot hébreu-araméen qui peut ne plus être compris dans un milieu grec, hein, vraisemblablement, le lieu d'élaboration du quatrième évangile est un milieu grec d'Asie mineure, on dit Éphèse, tout ça est dans une nébuleuse, n'est-ce pas ? L'évangéliste n'a pas pris le soin de nous décliner ni son identité, ni les lieux de son travail. Mais enfin, voilà, ici, nous avons une indication nette. Nous ne sommes plus simplement dans un milieu sémitique, mais dans un milieu hellénistique. Didascalé, maître. Et ça, c'est l'alliance. C'est-à-dire, voilà, la relation entre... l'élu, nommé par le Christ ressuscité par son nom propre, Marie, c'est lui qui prend le premier la parole, mais c'est pour s'adresser à elle par son nom, tout à fait remarquable. Et elle, en réponse à cette connaissance qu'il a de lui par son nom, lui décerne le titre de maître, de seigneur dans l'Alliance. Donc, voilà. Alors là, ça, non seulement nous fait relire l'ensemble du quatrième évangile, mais nous refait lire toute la Bible en clé d'Alliance, la relation qui est lieu de la révélation. Ne t'empare pas de moi, le texte qui permet de traduire ainsi se retrouve dans la première épître de Jean, quand il est dit, n'est-ce pas, que le mauvais ne peut pas s'emparer de l'engendré de Dieu. Je n'aime pas trop les variantes sur « ne me touche pas », même si c'est « même muaptu noli me tangere ». Oui, il y a certainement une nuance de toucher, hein, c'est remarquable, parce qu'enfin, autant la vision est le sens de la relation à distance, autant le toucher est le sens de la relation dans l'immédiateté, mais c'est surtout, compte tenu de ces deux phrases, n'est-ce pas, Seigneur, ils enlevèrent le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils le posèrent. Ils enlevèrent mon Seigneur et je ne sais pas où ils le posèrent. Si c'est toi qui le chargeas, dis-moi où tu le posas et moi je l'enlèverai. Il s'agit de sortir en quelque sorte de cette attitude, je ne dirais même pas de captation, mais de préoccupation exagérée. Hein? Ce n'est pas de mise, encore que cela demande vraiment un travail, un chemin dans la foi, quand le Christ est ressuscité. C'est lui qui va se charger de se révéler tel qu'il est. Et c'est le sens de la précision qui suit. Je ne suis pas encore monté auprès du Père. Vraisemblablement, ceci fait allusion à ce que les traditions évangéliques nous ont habitués à considérer comme le temps des apparitions. Hein? Voilà. Il y a un temps bien déterminé où le ressuscité va se faire connaître à ses témoins choisis. Et puis, il remonte au Père. Et le point important, c'est de ne pas d'abord vouloir chercher à accéder au Père par le Fils. Le point le plus important, c'est la mission, la qualité de la relation au ressuscité se traduit immédiatement, et c'est très remarquable, par l'envoi en mission. Va auprès de mes frères. C'est la bonne manière de ne pas se préoccuper exagérément de lui, parce que ça c'est une constante que nous avons vérifiée continuellement. Jésus ne veut pas que l'on s'attarde trop à lui. C'est notre vie qu'il veut, et à travers la nôtre, celle du plus grand nombre. Ça, c'est la logique de l'amour qui se communique. Et dis-leur, ah, ceci est très important, je monte auprès de mon Père et votre Père, et mon Dieu et votre Dieu. C'est pas tellement la montée qui est importante, et d'avoir accès, disons, à ce qui se passe dans cette montée. Mais le point capital, c'est ce moitié de verset 17 qui rend compte de la possibilité d'être engendré de Dieu, de la vie même qui unit le Fils au Père. Et cela, ça nous renvoie au centre du prologue. Le croyant, c'est celui qui n'est engendré ni des sangs maternels, ni de volonté de chair maternelle et paternelle, ni de volonté d'homme, de volonté masculine, paternelle, mais de Dieu. Alors, voilà la clé de compréhension de l'engendrement de Dieu qui caractérise le croyant, c'est évidemment la résurrection et l'ascension. Mais enfin, il n'y a pas de récit de l'ascension dans Jean. Hein? Le retour du Fils là d'où il est venu. Hein? Tout ce schéma spatial qui est symbolique du mouvement de l'incarnation, le Fils descend, envoyé par le Père, et il remonte pour retourner à lui, mais dans la vie des croyants, dans la mission même des croyants, dans la relation des croyants entre eux. ça qui est capital. Je monte auprès de mon Père et votre Père. Voilà. Nous sommes engendrés à la vie même du Fils dans sa relation au Père. Son Père est le nôtre. Et alors, pourquoi l'autre précision, mon Dieu et votre Dieu, vraisemblablement aussi pour faire le joint avec l'Alliance dans l'Ancien Testament. Mon Dieu et votre Dieu. Au fond, caractéristique néo-testamentaire en premier lieu, caractéristique vétérotestamentaire en second, et cela ne fait qu'un. Elle vient, c'est quand même remarquable, n'est-ce pas, ce présent du verbe venir, de nouveau, principe d'actualisation du texte dans le texte. Le texte est écrit au présent, parce que la réalité de la résurrection est au présent. Hein, c'est, voilà. Le jour 1 de la semaine, Marie la Magdalénienne vient, et le verset 18, en inclusion, reprend exactement le même verbe, avec d'ailleurs une petite inversion, petit chiasme. Elle vient, Marie la Magdalénienne, annonçant aux disciples. Hein, donc je vous ai dit, c'est intraduisible, mais ce qui est remarquable, c'est que l'on trouve ici « angelousa », c'est-à-dire le participe du verbe « angelein » qui se retrouve dans « angelos hein. ». Elle devient elle-même messagère, ange du ressuscité, aux frères, aux disciples. Alors, l'orthodoxie, c'est ravi de cela, n'est-ce pas ? Plus en Orient, sans doute encore qu'en Occident, Marie de Magdala, c'est l'apôtre des apôtres, apostolé, ton apostolo. Et j'ai vu le Seigneur, donc un parfait à nuance active. Donc je me trouve toujours voyant le Seigneur. Et c'est la seule chose qui est là à dire. Hein, en général, ces choses, il les lui dit, on l'inclut dans l'annonce. Non, ce qui est là à dire se limite, j'ai vu le Seigneur. Et ces choses, il les lui dit, ça c'est en quelque sorte l'évangéliste qui l'ajoute dans le discours indirect. Son discours direct à elle se limite, au fond, sa confession de foi et son annonce pascale se résument à « j'ai vu le Seigneur ». Tout ceci, donc, confirme que Marie de Magdala n'est pas présentée, nous l'avions souligné à propos de sa présence à la croix, comme une pécheresse dans le quatrième évangile. C'est celle qui aime Jésus. Voilà. Elle est l'aimante. Et dans les meilleures conditions, comme le disciple aimé pour le groupe des disciples masculins, c'est l'amour qui est la meilleure condition pour découvrir qui est le ressuscité. Au fond, l'amour, c'est la révélation par le ressuscité à Marie de Magdala de ce qu'il est comme vivant, comme ressuscité. Deuxième tableau du diptyque, les versets centraux. C'est de nouveau une présentation tout à fait typique du quatrième évangéliste. Étant donc une heure vespérale, il faut sous-entendre l'heure comme il faut sous-entendre le jour dans l'expression le 1 de la semaine. Étant donc le soir, pourrait-on dire, ce jour-là, avec le rappel, vous vous rappelez bien, c'est bien le même jour. Et ça, c'est une caractéristique du quatrième évangile. Pâques, Ascension, Pentecôte surviennent dans le même moment, le soir de Pâques. Nous allons voir ça justement dans les versets centraux 19 à 23. Les portes fermées là où étaient les disciples à cause de la crainte des Juifs, ceci fait le joint avec tout ce que nous avons vu des tensions entre la communauté judéo-chrétienne et la synagogue, dans des textes parfois très tendus, par une situation qui a confiné à la persécution, donc parce qu'il y allait de l'essentiel de la foi. Jésus a été accusé pour blasphème et violation de la loi, et rien n'a pu y faire, il a été mis à mort pour cette raison. Donc, la crainte des Juifs rappelle ce contexte tendu, bien après la résurrection aussi, entre la synagogue et la communauté des Juifs confessant Jésus comme leur Messie. Il vint Jésus, exactement le même verbe, mais ici à l'oriste, non plus au présent comme pour Marie de Magdala qui vient. Il vint Jésus et il se tint vers le milieu et il leur dit « paix à vous ». On remarque la discrétion de l'évangéliste au sujet des verbes qui pourraient évoquer les apparitions. Le terme utilisé par les synoptiques ne revient pas chez Jean. Les synoptiques diraient « il fut vu ». Non, il vint et il se tint. Donc, avec une sorte de précaution par rapport à tout, en quelque sorte, tout fantasme que le verbe « apparaître » pourrait provoquer. Autant le verbe de la vision, les verbes de vision sont favorisés pour le chemin de foi de la relation de Marie de Magdala au Seigneur ressuscité, autant les verbes de vision sont sous contrôle et ne sont pas employés, en premier temps au moins, pour ce qui se passe du côté de Jésus lui-même. Et il se tint vers le milieu, c'est pas au milieu d'eux, il se tint vers le milieu avec une sorte d'implication, de suggestion qu'il est en position médiane, médiatrice. Il est le milieu. Béard dirait le milieu divin. Et il leur dit « Shalom lachem, paix à vous ». Donc il transforme la crainte en paix. Là encore, réminiscence pratiquement de tout Isaïe. Dans le grand prophète, le prophète par excellence, n'est-ce pas, Isaïe, la crainte, la peur, parce qu'ici la crainte, ce n'est pas la crainte révérentielle, c'est la crainte servile, c'est la peur. La peur est à l'incrédulité ce que la paix est à la foi. Le prophète de la foi veut favoriser la paix comme expression affective de la foi. Première précision. Sa venue transforme affectivement la disposition des disciples de la crainte à la paix. Je vais m'expliquer sur le sens de la paix encore dans un instant. Ceci l'ayant dit, il leur montra les mains et la plèvre. Très important, très important. Pour le dire tout de suite, c'est ce que les disciples témoins de cet événement ne diront pas à Thomas. Or, la première chose que l'évangéliste souligne à propos de Jésus dans sa relation ressuscitée aux disciples, c'est que il est bien marqué des stigmates de sa passion et de sa mort en croix. Voilà. On n'est pas du tout dans une sorte de projection imaginaire d'un Deus ex machina qui viendrait on ne sait d'où. Non, 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 non. Le ressuscité est le crucifié. Et le crucifié est ressuscité. Et ça, c'est la joie. Paix et joie. Les biens messianiques dans l'Ancien Testament. La paix et la joie. Dans le vocabulaire spirituel, la consolation. Paix et joie. C'est aussi remarquable, n'est-ce pas? Parce que dans la crainte, ils sont dans la désolation. Cette crainte est transformée en consolation dans le terme de paix. Alors, normalement, montrer une plèvre transpercée et les mains transpercées de clous devrait provoquer l'effroi. Eh bien, exactement le contraire, ils se réjouirent donc les disciples ayant vu le Seigneur. Et c'est une sorte de reprise, n'est-ce pas, de ce qui arrivait au cœur de la dernière partie du discours de la scène. « Je vous verrai et votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne pourra vous la ravir. » Voilà. Donc, intéressant de voir à quel point l'évangéliste se préoccupe de nouveau du caractère sensible de la relation au ressuscité. Ce n'est pas des idées, ce n'est pas des raisonnements, ce n'est pas, comment dire, n'est-ce pas, un discours conceptuel. Ce qui est tout à fait conforme au corps du ressuscité. Jésus ressuscite dans son corps. Donc, c'est le corps des croyants qui est touché, atteint en premier lieu. Pas d'abord leur ménage, la tête, leur capacité de raisonnement. Et l'affectivité a un caractère immédiat que n'a pas le raisonnement, qui réfléchit précisément par médiation rationnelle. Il leur dit de nouveau, donc ici dans un bel article, Olivier Clément dit, parle de la liturgie du silence. Paix à vous, le Verbe ressuscité, première parole aux disciples, paix à vous, puis silence. Il leur montra les mains et la plèvre, ils se réjouirent donc, ayant vu le Seigneur. Puis, de nouveau, deuxième parole, la même. Bis repetita placem, n'est-ce pas? Et là, les choses s'accélèrent, n'est-ce pas ? Je le disais il y a un instant, Pâques, Ascension, Pentecôte, Johannique vont ensemble. Comme m'a envoyé le Père, moi aussi je vous mande. Je respecte toujours, comme vous l'aurez peut-être remarqué, la distinction entre les deux verbes que beaucoup trouvent synonymes, n'est-ce pas, sans nuance particulière. Personnellement, je pense qu'il faut respecter cela. L'envoi, c'est le verbe apostellein, qui donne apostola, apôtre. Mais il n'y a qu'une seule fois, dans le chapitre 13, où les disciples sont appelés apôtres. Donc, ce n'est pas le vocabulaire de Jean. Par contre, les verbes sont différents. Et l'apostellein... L'envoyer, être envoyé, c'est être, on pourrait dire, en état de mission, en état d'envoi permanent. Et ce n'est pas simplement ce qui caractérise, par exemple, Jésus d'un côté et les disciples de l'autre. Non, non, ce sont des distinctions, des deux verbes pour, disons, on pourrait dire, toute catégorie de personnes confondues. Apostellein est employé pour la mission en tant que telle. Sam Payne, mandé, est employé pour une mission particulière. Et ça, le Concile l'a rappelé, n'est-ce pas, dans les grands textes sur l'Église. Tout croyant, tout chrétien est en état de mission, est apôtre du fait d'être baptisé. Mais alors, il y a des missions multiples et infiniment variées, d'après les charismes, d'après les grâces, d'après aussi les constitutions psychiques, affectives de chacun et de chacune. Et donc, comme m'a envoyé le Père, moi aussi je vous mande, donc l'envoyé du Père confie aux disciples des missions qui varieront d'après leurs identités respectives. Mais c'est aussitôt donc la caractéristique de l'ascension qui est évoquée. L'ascension, c'est l'envoi en mission. Mais le quatrième évangile, à la différence de Luc, et de Luc seul, ne fait pas de récit de l'ascension ni de la Pentecôte. Seul Luc procède de cette manière-là. Ni Marc ni Matthieu ne distinguent à ce point les étapes, les dimensions constitutives du mystère pascal, résurrection, ascension, Pentecôte, seul Luc, l'historien Luc étale cela dans le temps et dans l'histoire, en respectant vraisemblablement les schémas de la liturgie juive, précisément parce que c'est un non-juif, parce que c'est un païen, un grec. Donc, de nouveau, je l'avais dit pour Marie de Magdala, la résurrection, la relation au ressuscité, se traduit immédiatement, selon les mots de Jésus lui-même, en mission. La résurrection, c'est la mission. Et alors, Pentecôte, ceci l'ayant dit, on dit souvent, il souffla sur eux. Non, non, c'est plus énigmatique, c'est plus elliptique. Il insuffla. Ah, ça c'est intéressant, parce que c'est le verbe que l'on retrouve, verbe rare, que l'on retrouve dans des contextes bien particuliers. Ennefusesen, ennefuo, pour par exemple Genèse 2. 2, 7. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Je crois très important de bien prendre conscience du rapport entre la résurrection et la création. Pour les auteurs chrétiens, la création ne s'accomplit vraiment que dans la résurrection. La résurrection est le couronnement de la création. Je le disais déjà à propos de l'expression le 1 de la semaine, le Père a créé le monde en vue de la résurrection du Christ et de la nôtre. Un autre texte très remarquable, Sagesse 15, 11, dans un sens un peu négatif, celui qui a été modelé de la terre a méconnu celui qui l'a modelé, qui lui a insufflé une âme agissante et inspiré un souffle vital. Et c'est remarquable que ceci fasse partie du texte, d'un des textes les plus tardifs de l'Ancien Testament. Et dans ce texte-ci, on voit très bien le rapport entre précisément cette insufflation et la création. Mais alors peut-être le texte le plus évocateur, c'est le fameux texte des ossements desséchés qui reprennent vie en Ézéchiel 37, versets 7 à 9. Je relis rapidement, n'est-ce pas ? Il se fit un bruit au moment où je prophétisais, Donc c'est après la conclusion de l'alliance nouvelle en Ézéchiel 16. Il y eut un frémissement et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais, ils étaient recouverts de nerfs, la chair avait poussé et la peau s'était tendue par-dessus, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il me dit, l'Esprit du Seigneur, prophétise à l'Esprit, prophétise, fils d'homme, tu diras à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur. Viens des quatre vents, Esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Voilà, on retrouve le même verbe, souffle. Je prophétisais comme il m'en avait donné l'ordre et l'Esprit vint en eux, ils reprirent vie et ils se mirent debout sur leurs pieds, grande, immense, armée. Donc c'est une véritable symbolique de la résurrection du peuple mort au cours de l'exil et qui revient à la vie quand il peut retourner sur la terre des promesses à Jérusalem. Donc, ça c'est voilà, le génie des auteurs bibliques, n'est-ce pas, c'est de dire en un mot un monde. Il insuffla et évoque, au fond, toute l'histoire du salut, de la création, jusqu'à la résurrection, puisque c'est le verbe qui est employé pour le ressusciter ici. Et il leur dit, ah, très très important, il avait livré l'esprit à la croix en mourant. Il livra l'esprit, inclinant la tête, ayant incliné la tête, il livra l'esprit. Une chose est de livrer l'esprit, autre chose est de inviter à le recevoir. Recevez, le fameux verbe lambanein, prenez l'Esprit Saint, appropriez-vous l'Esprit Saint. Alors, vous voyez, étant donné le rapport intrinsèque entre résurrection, ascension et Pentecôte, dans ce texte, on voit bien que l'essentiel de la mission, c'est de recevoir l'Esprit Saint. Hein ? La mission, c'est ça, c'est de recevoir l'Esprit Saint. Elle n'est pas définie autrement. Recevez l'Esprit Saint, et qu'est-ce que c'est que recevoir l'Esprit Saint ? C'est pardonner. C'est recevoir le pouvoir, l'autorité sur le péché. Si à certains vous laissez les péchés, ils se trouvent laissés à eux. Si à certains vous les retenez, ils se trouvent retenus. C'est ce qu'on appelle la figure stylistique du mérisme. Hein, les verbes opposés qui disent l'autorité totale sur le péché de celui qui reçoit l'Esprit Saint. Alors, vous vous doutez que c'est un texte qui a évidemment une postérité dans le dialogue œcuménique. Les catholiques interprètent le texte comme le seul, pratiquement, qui peut servir de fondement scripturaire au sacrement de la réconciliation. Et donc, nous devons en tenir compte. C'est certainement une des manières d'interpréter le texte. La tradition protestante, un peu réticente par rapport à tout ce qui est sacrement, sacramentalité, sacrement, etc. Mais non, c'est aussi tout croyant qui reçoit, qui devient plénipotentiaire du pardon grâce à l'Esprit. Et c'est juste aussi, et il faut tenir les deux. Hein ? Le texte dit que nous sommes tous, en tant que baptisés, participants de la résurrection du Christ, responsables de la miséricorde et du pardon. Ce n'est pas une question réservée au sacerdoce presbytéral dans l'exercice du sacrement de la réconciliation, et ce n'est pas une fonction réservée aux pénitents dans l'acte de vivre le sacrement de la réconciliation. C'est cela aussi, mais c'est plus que cela. C'est une invitation à être instrument permanent de réconciliation dans la communauté pour le monde. La communauté, disons, on pourrait dire, l'Église a un caractère sacramentel du point de vue, justement, ce n'est pas le vocabulaire protestant, l'Église est responsable du pardon effectué dans la mort et la résurrection du Christ. Le Christ ne peut pas communiquer son pardon et sa miséricorde autrement que par la manière dont nous l'exerçons à notre tour. C'est très remarquable. Or Thomas, un d'entre les douze, c'est rare cette précision des douze, enfin elle est ici, ça veut dire qu'ils étaient bien d'abord et avant tout. D'abord, ils ne sont plus douze, hein. Ils ne sont plus que onze depuis que Judas s'est enfoncé dans la nuit au chapitre 13. Mais enfin, ça reste les douze. Hein. Bon. Mais il n'en était pas question au début du texte. Ils apparaissent ici, donc c'est bien d'abord d'eux en priorité qu'il s'agit, alors que, bon, avec Marie de Magdala, on voit bien qu'il y avait une sorte de préoccupation plus large des disciples, Marie de Magdala incluse. Hein. Or, Thomas, un d'entre les douze, celui qui est dit Didyme, jumeau, c'est intéressant cette affaire-là. Je ne sais pas s'il y a des jumeaux ou des jumelles parmi nous, mais enfin, il y a toujours quelque chose de très particulier dans toutes les cultures, n'est-ce pas, lié à la gémellité. Hein. Alors voilà, si on insiste sur le fait qu'il est le jumeau, on l'appelle le jumeau, ça veut dire quelque part qu'il est notre jumeau à tous, n'est-ce pas ? Donc, nous devons tous nous retrouver là-dedans. Alors pourquoi est-ce qu'il n'était pas là quand les autres étaient présents ? Il n'était pas avec eux quand vint Jésus. Alors on lui demandera quand on le rencontrera. Alors, où est-ce que tu étais ? On ne sait pas. Il n'était pas là. Bon. Donc ils ne sont plus que 10. Ah, ça veut dire quand même, pour tout ce qui a été confié au précédent, il y en a un qui manque et c'est important. Donc... Alors remarquez, hein, je l'ai déjà signalé en lisant le texte, il lui disait donc les autres disciples, nous avons vu le Seigneur. Exactement ce que Marie de Magdala disait au verset 18. Oui mais, ils ne disent rien de ce qui précède le « ayant vu le Seigneur » au verset 20. Ils ont vu le Seigneur marqué des stigmates de sa passion et de sa mort. Et donc, Thomas est parfaitement en droit de s'assurer de la pertinence de ce témoignage. Quel Seigneur avez-vous vu ? Hein ? Si je ne vois pas, hein, c'est le même verbe, dans ses mains la trace des clous, mais eux l'ont vu. Donc, et si je ne jette pas mon doigt dans la trace des clous et ne jette pas ma main dans sa plèvre, là il y va un peu fort, hein, donc il en rajoute, on pourrait dire, et il aurait pu le dire peut-être un petit peu plus gentiment, un peu plus paisiblement, c'est pas bon, très bien, on voit bien qu'il est, il est pris là dans son affectivité. Je ne croirai sûrement pas. Mais donc, ce n'est pas d'abord l'incrédulité de Thomas. Je regrette, il y a un très beau livre d'un certain Moss, n'est-ce pas, Thomas l'incrédule, qui fait un travail, je le cite dans la bibliographie dont vous disposerez. Mais donc, c'est un épisode qui a une postérité considérable dans la culture et notamment dans la peinture. Hein, Caravage, etc., des scènes... Thomas l'incrédule. Non, Thomas n'est pas d'abord l'incrédule. D'abord, Thomas a une difficulté pour croire au témoignage des confrères. Parce que le témoignage des confrères, tel qu'il a été rapporté, n'est pas complet. Ils ont omis quelque chose de très important de ce qu'ils ont vu. Ils ont vu les mains et la plèvre transpercées. Ils ne le disent pas. Nous avons vu le Seigneur. Ils n'insistent que sur l'aspect de la résurrection. Il veut des compléments d'information et il sera exaucé dans cette demande. Et donc, sa difficulté, c'est de ne pas croire d'abord au témoignage des 12, qui ne sont plus que 10 à l'époque. Et puis alors, voilà, il prétend bien avoir part à l'expérience fondatrice. Et comme c'est très important pour l'histoire ultérieure, pour toute la postérité de l'Église, oui, c'est important du point de vue de notre vie spirituelle, de notre vie de prière, si quelque chose d'important pour la véracité de notre témoignage nous manque, il ne faut pas hésiter à le demander. Et donc voilà, après 8 jours, de nouveau, ils étaient dedans. Hein. Je vous ai déjà dit la dernière fois, la scène avec Marie de Magdala se passe dehors. Et on voit bien, les deux figures, n'est-ce pas, se correspondent. Marie de Magdala dehors, troisième volet du diptyque, après les versets centraux, Thomas dedans. La femme dehors, l'homme dedans. Et Thomas avec eux. Ah. Donc l'évangéliste, c'est le seul, hein. Le quatrième évangile est le seul à souligner l'importance de Thomas. Il vient, maintenant au présent, il vient Jésus, les portes fermées. Alors, il est, comme dit le père Martelet, c'est pas un passe-muraille, hein. C'est pas un fantôme qui traverse les murs, non. On veut dire que il n'est absolument pas contraint par les conditions spatiales de l'endroit. Il vient et il se tint vers le milieu et il dit « Paix à vous ». Exactement le même scénario que le soir de Pâques. Et donc, au passage, nous aurons remarqué que nous sommes entrés dans le calendrier chrétien de la succession des dimanches comme jour principal de la semaine, le premier, le jour 1, parce que c'est le jour de la résurrection qui accomplit le jour de la création en Genèse 1:5. Ensuite, il dit à Thomas, « Allez, vas-y, mets-toi à porter ton doigt ici et vois mes mains. Porte ta main, jette-la dans ma plèvre. » Donc, il reprend exactement les mêmes mots. Ça veut dire qu'il est exaucé, n'est-ce pas? Et que ce qu'il a demandé n'était pas farfelu. Mais, le « et » qui suit, une nuance, on pourrait dire, d'opposition, n'est-ce pas? « Ne te mets pas à devenir un croyant, mais croyant. » Donc, il est quand même sur une pente sur laquelle il ne faudrait pas glisser trop ni trop longtemps, hein. Et alors, ce qui est très remarquable, n'est-ce pas, c'est évidemment que rien ne nous est dit exactement de la réaction de Thomas, à la différence de tant de reproductions qui vont dans un grand réalisme jusqu'à mettre les doigts de Thomas dans la plaie du crucifié ressuscité. Non. Là, je crois que le blanc du texte fait respecter le mystère. Parce qu'enfin, le corps de Jésus, c'est le corps ressuscité. Il n'est plus soumis aux conditions de l'espace et du temps. Ce n'est pas simplement un cadavre réanimé. Donc, il faut respecter, la logique du texte. Par contre, alors, ce que dit le texte, c'est la confession de foi, une des plus belles de Thomas, n'est-ce pas ? « Mon Seigneur et mon Dieu ». Exactement la reprise des deux termes employés par Jésus à Marie de Magdala. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Donc, sans insistance, sans description des gestes posés. Parce que tu m'as vu, tu as cru, Heureux ceux qui ne virent pas et qui crurent. Deuxième, autre, unique béatitude dans le quatrième évangile, après celle que nous avions rencontrée au chapitre 13 et dont nous avait bien entretenu Madame Hernandez, n'est-ce pas ? Heureux ceux qui... Je reprends le texte de 13, n'est-ce pas ? Après le lavement des pieds, heureux êtes-vous si, sachant cela, vous le faites. Hein ? Ici, il n'y a pas de dévaluation du voir, hein, mais il y a valorisation du croire. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Il a eu besoin de voir. Et le disciple bien-aimé, Pierre, également. Il a été dit, n'est-ce pas, il vit et il crut. Donc on voit bien, le texte est admirablement composé. On peut s'attarder longuement à la composition de ce chapitre 20, n'est-ce pas, le début de l'acte de voir et de croire du disciple bien-aimé revient dans ce qui est dit à propos de Thomas et surtout des mots de Jésus à Thomas. « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Ils ont tous eu besoin de voir. Ça, c'est quand même remarquable. Heureux ceux qui ne virent pas et qui crurent sur le témoignage de ceux qui ont vu. Donc je dis, ce n'est pas une dévaluation du voir, parce que tout le chapitre 20 montre que les disciples, hommes et femmes, ont eu besoin de voir, d'un voir de foi, de l'intérieur de la foi. Mais indispensable au croire. Et c'est bien sûr la béatitude qui nous caractérise tous. Je peux m'arrêter maintenant parce que je compte conclure sur les deux conclusions du chapitre 20 et du chapitre 21 tout à l'heure. Repos, pause. Alors, trois quarts d'heure pour Jean 21 et pour conclure. Sans faire trop de commentaires au préalable, nous entrons directement, donc, de nouveau, dans le premier tableau du triptyque composé, de nouveau, par les versets 1 à 14, bien délimités par Il se manifesta, il fut manifesté, Jésus. Puis, le dialogue fameux entre Simon, Pierre et Jésus qui suit, les versets 15 à 19. Et alors, la dernière, dernier panneau, tout ce qui concerne, au fond, la relation aux disciples bien-aimés, sur la question de Pierre, avec, comme dans le chapitre 20, les versets 24 et 25 qui servent de deuxième conclusion, on pourrait dire, non seulement au chapitre 21, mais comme la conclusion du chapitre 20, les deux conclusions servent, au fond, de conclusion à l'ensemble du récit évangélique. Ce chapitre est souvent considéré comme un ajout postérieur de rédaction secondaire. Personnellement, encore plus cette fois, ayant fait ce cours que les fois précédentes, j'en vois une pièce maîtresse de l'organisation littéraire d'ensemble du quatrième évangile, dont on ne peut absolument pas se passer, qui entre comme partie intégrante du projet de l'évangéliste, au moins dans l'état définitif du texte. Pourquoi ? Premier élément, Le chapitre 20 se déroule à Jérusalem. Donc, résurrection de Jésus attestée par des croyants à Jérusalem. Le chapitre 21 nous retransporte dans le nord, au bord du lac de Tibériade, où avait eu lieu l'événement des pains à forte tonalité eucharistique, suivi par le discours eucharistique sur le pain de vie et conclu par une scission entre les disciples et quelques-uns qui restent avec Jésus à la suite de Pierre. Alors, nous retrouvons donc dans l'alternance de Sud Jérusalem, chapitre 20, Nord, lac de Tibériade, Galilée, avec le chapitre 21, toute la dynamique de la trajectoire incessante de Jésus dans les chapitres 1 à 6, du sud au nord, du sud parce que vraisemblablement nous fêtons partir de cet endroit où Jean baptisait et qui doit être quelque part autour de Jéricho, hein, donc aux abords de la mer Morte, et donc nord avec les événements notamment autour de Cana. On retrouve ainsi dans les deux chapitres consacrés à la résurrection la dynamique fondamentale du quatrième évangile qui nous fait comprendre que l'histoire de Jésus, du premier témoignage de Jean jusqu'à la résurrection, concerne d'abord et avant tout Israël, le judaïsme. Ce n'est pas le pôle Israël-nation qui est d'abord pris en compte. Ça me semble important pour ce que nous allons voir à propos des 153 poissons dans un instant. Voilà. Donc, Jean est l'évangile qui centre l'attention sur les divisions à l'intérieur du peuple élu et que Jésus, dans sa vie, sa parole, ses gestes, ses actes, et sa résurrection, essaye de rétablir dans l'unité, afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Et le deuxième élément tout à fait décisif pour moi, c'est évidemment la confirmation en contexte de résurrection de ce qui avait été annoncé au chapitre 6, qui lui est parallèle, en conclusion de la première section du quatrième évangile, à l'occasion des pains, donc, et où Jésus avait mis en rapport l'Eucharistie et la résurrection. Voilà. Donc, nous retrouvons ici, et c'est un des éléments aussi décisifs pour maintenant la place de ce chapitre 21, au fond, tout ce qui tourne à propos de la troisième manifestation de Jésus ressuscité autour de l'Eucharistie. Je vous avais rappelé la fois dernière les fameuses quatre incorporations du Logos selon Origène, dans un magnifique chapitre de Histoire et Esprit du père de Lubac. Première incorporation du Logos en Jésus de Nazareth, ça nous l'avons vu depuis le prologue, et Jésus était mentionné explicitement dès le début du chapitre 10, du chapitre 20, à propos de justement son tombeau, son mémorial. Deuxième incorporation du Logos, l'Église, les croyants, bien représentés par Marie de Magdala, Pierre, le disciple aimé, et puis les disciples le soir de Pâques, 8 jours après avec Thomas. Donc, l'Église. Troisième incorporation du Logos, l'Écriture, qui arrive immédiatement comme premier élément, en quelque sorte, pour combler le tombeau vide. Il ne croyait pas encore l'Écriture d'après laquelle il faut qu'il ressuscite des morts. Le corps des Écritures comme corps du ressuscité, très vivace dans la conscience de l'Église. C'est ce qui fait que nous continuons à lire l'Ancien Testament et à lire l'Ancien Testament dans la liturgie eucharistique, précisément. Manque l'incorporation du Logos dans l'Eucharistie. Elle arrive au chapitre 21. Et ce n'est pas un élément secondaire dont on pourrait éventuellement se passer, c'est un élément absolument décisif pour comprendre qui est le ressuscité. Je commence par faire une lecture assez cursive des 14 premiers versets pour revenir sur certains détails, mais donc en attirant de nouveau l'attention sur le fait que le verbe utilisé n'est pas le verbe que l'on trouve pour les apparitions de Jésus dans les synoptiques. Il fut vu. Hein, le verbe orao et orte. Non, il se manifesta. Donc il entre, hein, le verbe dit, n'est-ce pas, ephanerosen. Hein, il entre dans la phénoménalité, hein, dans la manifestation. Il se manifesta de nouveau Jésus aux disciples sur la mer de Tibériade, donc c'est très net. Donc nous sommes remis en contexte de résurrection par rapport à l'événement des pains dans le chapitre 6, le plus long du quatrième évangile. Donc il y a un phénomène de parallélisme qui me semble tout à fait notoire et notable. Ils étaient ensemble, on va faire le compte, Simon-Pierre 1, Thomas 2, qui est dit Didyme, et Nathanaël, on en a très peu parlé, mais il sert ici à faire le joint avec le chapitre 1, celui de Cana de la Galilée. Donc avant l'épisode de Cana, il y avait des disciples, les premiers disciples même sortis des rangs des disciples baptistes étaient du nord. Hein, Jésus, dans le quatrième évangile, est mieux reçu dans le nord que dans le sud. Donc, Simon-Pierre 1, Thomas 2, Nathanaël 3, les fils de Zébédée. Attendez, Simon, Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée, 5, et deux d'entre ses disciples, donc ça fait 7, le chiffre parfait. Alors je ne suis pas moi fanatique de la symbolique des chiffres dans le quatrième évangile. Un grand fanat de cette manière d'approcher les textes était le père Boimard de Jérusalem, l'école biblique, là, auteur avec André Lamouille, un collègue dominicain, un commentaire important sur l'évangile de Jean. N'empêche que, oui, ce n'est sans doute pas par hasard qu'il soit 7 et non 12, par exemple. Hein? Le chiffre 7 étant le chiffre qui évoque à la fois, on pourrait dire, la totalité et la perfection. Mais alors, la surprise est évidemment de voir pour la première fois arriver les fameux fils de Zébédée, distincts de deux autres disciples qui ne sont pas nommés. Alors il y en avait un qui n'était pas nommé dès le début avec André, et on pouvait penser que c'était le fils de Zébédée, Jean. Ici on est un petit peu dérouté, parce que les fils de Zébédée, même s'ils ne sont pas nommés Jacques et Jean, sont nommés comme tels, les fils de Zébédée, et d'autres d'entre ses disciples, deux. Donc, en tout cas, la nouvelle donne, c'est les fils de Zébédée. Il n'en a jamais été question auparavant, et c'est un des éléments, parmi d'autres, on ne va pas entrer dans trop de détails, qui porterait la marque d'un rédacteur secondaire, postérieur à ce qui a été dit dans les chapitres précédents. Il leur dit, Simon-Pierre, je pars pêcher. Ils n'ont pas été tellement présentés comme des pêcheurs, les premiers disciples. Hein, ça, c'est propre aux synoptiques. Donc ici, il y a quelque chose. Voilà, on apprend que la profession de Simon, c'est bien d'être pêcheur, comme les deux fils de Zébédée, Zébédée étant lui-même pêcheur, n'est-ce pas? Donc, je pars pêcher, donc il se retrouve, hein, ça c'est certainement une donnée importante, sur le lieu de leurs occupations de jadis, avant leur aventure avec Jésus. Ils lui disent, donc voilà, Simon-Pierre est toujours revêtu d'un caractère de leader, de représentant de tous les autres, n'est-ce pas ? Nous venons nous aussi avec toi. Ils sortirent, montèrent dans le bateau, et en cette nuit-là, ils n'arrêtèrent rien. Un verbe qui a une postérité dans les chapitres précédents, mais bon. Le tôt matin déjà devenu, il se tint Jésus vers le rivage, et alors, ce qu'on avait déjà vu à propos de Marie de Magdala, ils ne savaient pas les disciples qu'il est Jésus. Donc, ils ne le reconnaissent pas. Voilà pour, de nouveau, personnellement, donc je crois que le rythme de la littérature johannique est un rythme ternaire, n'est-ce pas ? Première scène. Et puis alors, il leur dit donc Jésus, c'est plus que ce qu'il avait dit au début du discours de la scène à la fin du chapitre 13, n'est-ce pas ? Paidia. On pourrait dire, voilà, tout petit, hein, langage qui a quelque chose de maternel. Hein. Petits enfants, technia, au début du chapitre du discours de la scène, après le départ de Judas, ici, paidia, vous n'avez tout de même pas quelque chose de mangeable ? Ils lui répondirent, non. Humiliant. Il leur dit, jetez vers les parts droites du bateau le filet et vous trouverez. Ils jetèrent donc et ils n'avaient plus la force de l'attirer à cause du nombre des poissons. Il dit donc le disciple, celui-là qu'aimait Jésus à Pierre, il est le Seigneur. Il est le Seigneur. J'aime bien traduire comme ça plutôt que c'est le Seigneur. Il est le Seigneur. Donc, au pont, on pourrait dire, Jean 20 fait comprendre que Jésus est le Seigneur. Jean 21 revient sur le fait que le Seigneur, c'est ce Jésus qui se manifeste. Il y a une complémentarité, ce n'est pas la même chose. Un autre point de vue, dirait-on en narratologie à l'heure actuelle, n'est-ce pas ? Et donc, c'est de nouveau le regard... Enfin, voilà, ça... Ça fait évidemment, enfin moi, disons, ça fait évidemment écho de nouveau ce rapport particulier entre Simon et Pierre au chapitre 13, la première fois qu'ils apparaissaient tous les deux ensemble. Hein. Donc, non seulement il y a un rapport très important de parallélisme entre Jean 21 et le chapitre 6, mais entre Jean 21 et le chapitre 13. Donc c'est vraiment la conclusion de ce qui s'est passé au cours de la scène en Jean 13. Autre raison pour vraiment maintenir le chapitre 21 dans l'organisation littéraire globale du texte. Simon-Pierre, donc, ayant entendu qu'il est le Seigneur, se ceignit de sa veste car il était nu et il se jeta dans la mer, ce qui évidemment surprendra jusqu'à la fin des temps. Je n'entre pas dans toutes les explications possibles et imaginables qu'on a trouvées et qu'on trouvera sans doute encore. Je crois que simplement, il était en tenue de travail et qu'il y a une sorte de pudeur hein, qui fait que, bon, pour s'approcher du Seigneur, il s'habille, ne fût-ce que pour plonger à l'eau. Les autres disciples par la barque, ils vinrent, car ils n'étaient pas loin de la terre, même à environ 200 coudées, traînant le filet des poissons. On insiste déjà sur le filet. Hein. Comme donc ils furent descendus sur la terre, ils regardent un feu de braise gisant. Tiens, on le retrouve, c'était le feu de braise à un autre endroit, à Jérusalem, dans le cadre du prétoire, mais autour duquel se chauffait Pierre. Hein. Ils regardent un feu de braise gisant et du petit poisson gisant dessus et du pain. Il y a une distinction entre le petit poisson et les poissons. Il leur dit, Jésus, portez à partir des petits poissons que vous avez arrêtés maintenant. Il monta donc Pierre, Simon Pierre, il attira le filet vers la terre, plein de gros poissons, et voilà les fameux 153. Alors je vous ai encore, même pas plus tard que ce matin, fait une petite page, n'est-ce pas, pour vous aider à décoder ce 153 dans les deux pages annexes du chapitre 21, 1, 14, que vous avez à votre disposition et sur lesquelles je vais revenir. Et étant tellement nombreux, le filet ne fut pas divisé. Le même verbe qui était utilisé pour la tunique qui n'était pas divisée au moment du partage des vêtements en 19, 23, 24. Il leur dit, Jésus, restaurez-vous. Personne n'osait des disciples s'enquérir de lui. Toi, qui es-tu, sachant qu'il est le Seigneur? Ah, voilà, ça c'est le génie de Jean qui exprime, n'est-ce pas, cette sorte de tension interne à la foi. La troisième fois, ils ne savaient pas les disciples qu'il est Jésus. Ici, ça va encore plus loin. Ils n'osaient pas lui poser la question « Toi, qui es-tu ?» sachant qu'il est le Seigneur. La question leur brûle les lèvres et en même temps, ils sont persuadés que c'est bien lui, c'est bien de lui qu'il s'agit. Et alors, il vient, Jésus, de nouveau avec le verbe au présent et il prend le pain et le leur donne, et voilà, donc, les deux verbes qui rappellent le chapitre 6, au moment de l'événement des pains. Donc, la connotation eucharistique est nette. Et le petit poisson, semblablement, ce fut déjà la troisième fois qu'il fut manifesté Jésus aux disciples, relevé d'entre des morts. Troisième manifestation. Nous avions vu que le Verbe arrivait pour la première fois. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui en conclusion de Cana, avec une anticipation, une prolepse, comme on dit dans un langage un peu savant, de la résurrection. L'autorité de Jésus en parole et en acte dans le quatrième évangile, est confirmé par son autorité finalement sur le péché et sur la mort dans sa résurrection. Alors, depuis Augustin en particulier, à propos du 153, j'ai relu attentivement l'article de Marc Crastoin dans la revue Biblica de 2009 à ce sujet, encore une fois les 153 poissons, donc intéressant. Depuis Augustin, on interprète ce 153 comme un chiffre triangulaire dont vous avez une petite schématisation sur une page volante, là. Donc, quand vous additionnez tous les chiffres de 1 à 17, 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 17, vous obtenez 153 qui vous donne, disons, un chiffre triangulaire puisque 17 peut servir de côté aux trois angles d'un triangle. Bon, alors, c'était sans doute une manière, enfin, une manière qui intéressait les anciens. Mais, est-ce que ça pourrait valoir dans la mentalité d'un auteur comme le quatrième évangile? Personnellement, je n'en suis pas du tout sûr. Si bien qu'on a aussi essayé, notamment, personnellement j'avais eu trace de ça jadis, mais enfin c'est revenu en force dans l'article de Rastoin, 153 chiffres triangulaires, ou bien, disons, jeu de gématria, le terme technique en hébreu, araméen, pour dire, n'est-ce pas, le jeu d'interprétation auquel peut prêter la valeur numérique des lettres en hébreu. Et alors, j'ai été retrouver le texte qui sert de base à cela, n'est-ce pas? C'est le chapitre 47 d'Ézéchiel. Voilà. Je prends les versets clés, n'est-ce pas? C'est la source du temple, hein, chapitre 47 d'Ézéchiel, qui sort, l'eau qui sort du temple pour se plonger dans la mer morte. Alors, partout où passera le torrent, c'est au verset 9, tout être vivant qui fourmille vivra, le poisson sera très abondant, car là où cette eau pénètre, elle assainit, et la vie se développe partout où va le torrent. Sur le rivage, il y aura des pêcheurs. Enfin, c'est la mer morte, hein. C'est pas le lac de Tibériade. Mais enfin, il y aura des pêcheurs. Depuis En-Gedi, qui est une oasis bien connue, dont il est question jusque dans le Cantique des Cantiques, sur le côté judéen de la mer morte, jusqu'à En-Eglaïm, qui est vraisemblablement une localité sise sur l'autre rivage païen, Moabite, mer morte. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, des filets seront tendus, les poissons seront de même espèce que les poissons de la grande mer, et très nombreux. Donc, bon, il y a plusieurs aspects qui font penser à pouvoir éclairer le texte de Jean par ce texte, cet intertexte, pourrait-on dire, de Ézéchiel 47, 9, d'autant plus que, alors, on retrouve la symbolique du chiffre 17, le chiffre triangulaire, là, puisque si on fait le compte d'après la valeur numérique des lettres de la ville, du lieu d'En-Gedi, mais enfin, on triche un petit peu, là, parce que c'est seulement Gedi qui est pris en compte, hein. Bon, je veux bien. Enfin, vous avez Gimel, Dalet, Yod, on ne compte pas les voyelles, hein, ça vous fait 3 plus 4 plus 10, 17. Et En-Eglaïm, vous laissez tomber aussi le Ein, ce qui est aussi une petite entorse à la logique, mais enfin voilà. On a alors pour En-Eglaïm, si on inclut le Ein, hein, disons ici exprimé par l'accent, on pourrait dire l'accent grave, donc, Aïn, Gimel, Lamed, Yod, Mem, 70 plus 3 plus 30 plus 10 plus 40, ça vous fait 153. Alors, je cite mon collègue, mon estimé collègue et ami Marc Rastoin. Donc, l'idée la suivante, le Messie Jésus rassemble tous les poissons, ceux de la rive d'Israël, d'En-Gedi, jusqu'à ceux des nations, ceux d'En-Eglaïm. Bon. Alors, comme toujours dans ces cas-là, on est méchant en disant ça. Enfin, et alors, hein? Bon, ben ça, moi ça ne me convient pas tellement, parce que je crois que de nouveau, c'est pas cette symbolique-là qui domine. Encore que Ézéchiel a certainement des réminiscences importantes dans le quatrième évangile. Mais enfin, voilà, moi je pense tout simplement qu'il s'agit d'un nombre considérable de poissons et que le plus important, c'est pas ça, c'est que le filet ne se déchira pas. Et donc on retrouve ici la symbolique de la tunique, n'est-ce pas? Deux seuls emplois du verbe skizein divisé dans le quatrième évangile. Donc, il s'agit d'un symbole vraisemblablement de l'unité et d'une unité qui, malgré toutes les divisions dans l'histoire, est en quelque sorte assurée symboliquement de ne pas être divisée. Le plus important dans tout cela étant bien entendu le fait qu'il nous manquait dans les récits sur la résurrection un affleurement de l'Eucharistie. Et vous voyez à quel point cet affleurement est à la fois discret et tellement, symbolique de la fraîcheur de l'Eucharistie dans ces conditions. N'est-ce pas? On se prend Il m'est arrivé de célébrer l'Eucharistie sur les bords du lac de Tibériade. C'est quand même autre chose que dans la chapelle Saint-Ignace ou dans, même dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Donc il y a une sorte de... Voilà, la prise en... Je crois que ce qui est important là, dans le Nord, en contexte pascal, qui est le contexte du printemps, la nature refleurie, etc., n'est-ce pas, c'est la prise en compte de nouveau du cosmos, de la création. La création tout entière ressuscite. Et elle ressuscite aussi dans l'Eucharistie. L'Eucharistie rend le ressuscité présent, effectif, actif. Tant donc ils se restaurèrent, alors, maintenant, on revient sur l'autorité pastorale de Pierre. Et donc, là, je vais faire une lecture cursive en attirant l'attention, n'est-ce pas, sur ce qui permet une interprétation. Quand donc ils se restaurèrent, il dit à Simon-Pierre, Jésus, Simon de Jean, m'aimes-tu agapas me plus que ceci, plus que ceci? Il lui dit oui. Oui, Seigneur. Mais avec la précision, toi, tu sais que je te chéris, philo, c'est. Il lui dit, paie mes petits agneaux. Donc, au fond, assure surtout, on pourrait dire, la nourriture hein, du troupeau. Donc, c'est certainement la symbolique du pasteur, hein, le chapitre 10 qui revient ici, donc... symbolique pastorale jusque dans le livre, justement, d'Ézéchiel. Ézéchiel 34 parle beaucoup des pasteurs et du troupeau. Il lui dit de nouveau une deuxième fois, Simon de Jean. On ne sait d'ailleurs toujours pas très bien que veut dire cette expression. Hein? En général, Simon, c'est Simon bar Jonas, fils de Jonas. Ici, c'est Simon de Jean. Personnellement, je penche de plus en plus dans un sens de sorte de filiation de Simon par rapport à Jean, fameux Jean, dont on ne sait toujours pas très bien qui il peut être, mais qui est vraisemblablement ce disciple bien-aimé, dont il va être question de nouveau dans la suite. Oui, Seigneur, toi, tu sais que je te chéris. De nouveau, la même alternance entre les deux verbes. Il lui dit, Jésus, sois le pasteur de mes brebis. Pas seulement la nourriture des agneaux, mais on pourrait dire la formation, pourrait-on dire, doctrinale des brebis adultes. Il lui dit la troisième fois, Simon de Jean, ah, il adopte le verbe de Pierre, me chéris-tu, phileis me. Il fut attristé, Pierre, qui lui dit la troisième fois, me chéris-tu. Et il lui dit, Seigneur, tout toi tu sais. Hein? Il renchérit par rapport à la première réponse. Tu connais, tu as appris à connaître que je te chéris. Il lui dit, une sorte de synthèse des deux réponses antérieures, paie mes petits agneaux, mais maintenant avec le complément de la deuxième intervention, paie mes brebis. Donc, sorte de synthèse. Alors, la question qui se pose, si on respecte la différence des deux verbes, ce que personnellement je tiens absolument à faire. Je ne pense pas que dans la pauvreté de son vocabulaire, l'évangéliste joue sur des synonymes simplement pour le plaisir de ne pas répéter les verbes. Non, non, mais la question est de savoir quelle est la différence entre agapao et phileo. La thèse du père Spic, ses slas spic op, hein, c'est un français d'origine slave, disait, et ça a été repris souvent, n'est-ce pas, Pierre n'oserait pas dire qu'il aime Jésus d'un amour théologal, agapao, mais qu'il l'aime seulement d'un amour purement d'amitié humaine. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit possible dans l'univers sémitique. On ne distingue pas un amour spirituel d'un amour qui ne le serait pas. Tout amour est spirituel. Voilà. Et donc, il ne s'agit pas d'une sorte de rabaissement, hein, de l'amour théologal à l'amour d'amitié. Personnellement, je crois qu'il s'agit exactement du contraire. Philéo, comme en français d'ailleurs, si on traduit par chérir, dit une nuance affective supplémentaire de l'amour par rapport à agapao. Et donc, personnellement, alors que c'est l'idée d'Augustin qui a fait florès jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, il ne s'agit pas d'abord d'un triple rappel du triple reniement de Pierre, je ne pense pas. Ce n'est pas dans la manière de Jésus, ça. Il ne retourne pas le couteau dans la plaie, à la limite, n'est-ce pas. Mais il donne à Pierre l'occasion de dire jusqu'au bout ses dispositions les plus fondamentales, les plus profondes. Et Pierre n'a pas peur de dire à la question « M'aimes-tu plus que ceci ?»« M'aimes-tu plus que ceci ?»« Oui, je t'aime plus, je te chéris. » Donc, il n'a rien perdu ni de son impétuosité, ni peut-être de son audace. Voilà, ce que le texte suggère, c'est beaucoup plus, disons, la capacité qu'exprime ici Pierre, et c'est le verset suivant qui va le faire comprendre, d'aller jusqu'au bout de l'amour, comme Jésus lui-même y a été, en donnant sa vie pour ceux qu'il aime. Parce qu'on suppose connu le martyre de Pierre. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'entourais d'une ceinture et tu marchais là où tu voulais. Ah, quand on vieillit, ce sont des choses qui touchent, n'est-ce pas ? Quand tu vieilliras, tu étendras tes mains et un autre t'entourera d'une ceinture et te portera là où tu ne veux pas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le verset 19 le dit clairement. Ceci, il le dit, signifiant de quelle mort... Tiens, il y a un petit couac. Il glorifiera Dieu. Et on retrouve, pour l'unique fois dans tous les chapitres 18 à 21, le verbe de la glorification qui avait été utilisé à la fin du chapitre 12 et à la fin du chapitre 13 pour la glorification du Fils de l'homme. Donc, Pierre est identifié à son Seigneur jusque dans une mort martyre. Datée, c'est pas exactement, hein, 64, 66 en tout cas, là les fouilles sur les fondements de la basilique Saint-Pierre au Vatican, montre très bien hein, qu'il a été martyrisé sur la colline du Vatican et que l'église, la basilique Saint-Pierre, est construite sur ce fondement du martyre de Pierre. Et ceci l'ayant dit, il lui dit « Suis-moi ». C'est tout à fait extraordinaire. Hein, que l'appel à la séquela, à la suite du Christ, retentissent pour Pierre de la part du Christ ressuscité, qui est au fond celui qui lui a aussi permis de le suivre jusque dans sa mort martyre. Ayant été retourné, même verbe, ou en tout cas très semblable au retournement de Marie de Magdala au chapitre 20, n'est-ce pas, Pierre regarde le disciple qu'aimait Jésus qui suivait. Celui qui, alors voilà, ça c'est quand même très clair, c'est pas qu'il s'allongea dans le repas sur sa poitrine et dit « Seigneur, quel est celui qui te livre ?» Celui-là donc, l'ayant vu, Pierre dit à Jésus « Seigneur, celui-ci, quoi ? Tu cherches qui ? Tu cherches quoi ?» Alors ici, Pierre pour le disciple « Celui-ci, quoi ?» C'est voilà, quelque chose là du langage simple, hein, direct. « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, quoi pour toi ? Toi, suis-moi !» C'est tout à fait remarquable, n'est-ce pas ? Il a entendu pour la première fois, qu'est-ce qu'il a entendu exactement ? En tout cas, il y a la reconstitution ici par l'auteur de la scène, n'est-ce pas ? Jésus l'appelait à le suivre et il s'occupe d'abord et avant tout de l'autre. C'est à la fois très, très, très ingénu et très, très beau. Et donc, à partir de là, elle sortit cette parole vers les frères, que ce disciple-là ne meurt pas. Or, il ne lui dit pas Jésus qu'il ne meurt pas, mais « si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, quoi pour toi ?» Alors, ça, c'est remarquable pour faire comprendre le sens du « demeurer », un verbe clé du vocabulaire johannique. « Demeurer », c'est anticiper la mort et la vie avec le ressuscité dès ici-bas. Et ça n'empêche évidemment pas de mourir. Hein ? C'est ce qu'il faut concilier. Il y a quelque chose de l'ordre d'un oxymore, là. Hein ? Voilà. La conciliation entre la mort et la vie, elle se fait dans le verbe demeurer. Demeurer, c'est anticiper la vie avec le Christ, moyennant la mort, dès ici-bas. Et c'est la définition, pourrait-on dire, de la vocation de ce disciple que Jésus aimait. La définition de la vocation de Pierre, c'est « suis-moi » et « suis-moi jusqu'au martyre ». Mesdames et messieurs, chers amis, il me reste donc 5 minutes pour revenir d'abord sur la conclusion du chapitre 20 et ensuite 5 minutes pour revenir sur la conclusion du chapitre 21. Donc nous nous étions arrêtés dans la lecture du chapitre 20 au verset 29 avec la béatitude de ceux qui ne voient pas et qui croient, beaucoup aussi d'autres signes. Il en fit, toujours, on fait des signes, hein, verbe qui a une connotation de création, faire, en face de ses disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre. Hein, et donc la prise en compte de l'écriture qui était faite dès le... Il ne savait pas l'écriture. Hein, donc le livre qui est en train d'être écrit va faire partie des écritures, de l'écriture. Ceci... D'autre part, se trouve écrit afin que vous croyiez deux aspects, deux contenus au croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Les deux dimensions. Hein. La dimension du Christ comme Messie de la descendance de David et le Fils de Dieu, même si c'est aussi un terme royal, dans sa relation quand même de Fils au Père. Je crois qu'on peut distinguer les deux. Et afin que, croyant, vous ayez vie dans son nom. Autre complément d'information décisif pour faire comprendre à quel point, à la lumière de la résurrection, le croyant est vraiment engendré à la vie de Dieu dans le nom de Jésus. En Jésus. Dans le Fils. Nous sommes fils et filles du même Père que le Père de Jésus. Donc, sélection des signes. Bon, combien en y a-t-il ? Y en a-t-il ? On ne sait pas trop. Enfin, on en compte en général 7. Mais personnellement, là, je suis d'avis que la symbolique du chiffre 7 fonctionne. Hein. Donc, on peut rapidement les rappeler, n'est-ce pas ? Il y a Cana 1, la noce à Cana de la Galilée. Cana 2, la guérison du fils de l'officier royal. 3, la guérison du paralytique. 4, les pains. 5, la marche sur les eaux. 6, l'aveugle-né. Et 7, Lazare. Donc, il y a eu sélection, il y a eu choix, il y a eu discernement pour se limiter à... des signes retenus comme suffisamment significatifs, exemplaires. Pour le reste, la foi, le croire, doit suffire. La conclusion du chapitre 21 est autre et complémentaire, je pense. D'abord, on revient sur le témoignage du disciple 24-25, celui-ci, c'est-à-dire le disciple que Jésus aimait et qui est caractérisé par le demeurer, qui n'empêche pas de mourir, mais qui permet de vivre déjà avec Jésus dès ici-bas, celui-ci est le disciple, celui qui témoigne au sujet de ces choses et celui qui écrivit. Ah, voilà. Quelqu'un comme Jean-Christian Petit-Fils, historien, prend très au sérieux ce type de verset, n'est-ce pas, qui dit « il n'y a rien à faire, le quatrième évangile est écrit par un témoin oculaire ». C'est contesté par beaucoup d'exégètes, mais personnellement, je crois qu'il faut respecter l'insistance ici sur ce témoignage. Hein, ça n'a pas été inventé, hein, c'est le point. Et nous savons que vrai son témoignage, il l'est. Et on retrouve la question du témoignage, hein, donc qui ouvrait le récit au chapitre 1 et qui occupait une place très importante pour Jean dans le prologue hymnique, le témoignage, et un témoignage qui va jusqu'au sang. On ne sait pas, on a très peu de détails sur la mort de Jean, hein, même comme auteur de l'Apocalypse et des lettres, etc. Mais enfin, il y a des martyrologes des premiers siècles qui mettaient Jacques et Jean, fils de Zébédée, martyrs, dans des martyrologes bien inventoriés, n'est-ce pas ? Parce qu'ils avaient eu la promesse d'être baptisés comme Jésus serait baptisé dans la mort martyr. Il y en a aussi d'autres, beaucoup de choses, pas des signes, que fit Jésus. Donc ici, on passe à autre chose que les signes. Tout ce que Jésus a fait, par-delà les signes, pourrait-on dire, lesquels, si elles sont écrites une à une, pas même, je pense, le monde lui-même n'en contiendra les livres, ceux qui sont en train d'être écrits. Donc ici, on pourrait dire ce que l'auteur souligne, c'est l'inadéquation entre ce qui peut être écrit au sujet de Jésus, et en particulier de son faire, il souligne plus le faire que le dire, et ce que l'on peut en écrire dans des livres. La vie excède l'écrit. Hein? La vie excède l'écriture. Ça, l'ancien et le nouveau. Hein? Toutes les écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament supposent un vécu, une expérience première qui excède largement tout ce que l'on peut en écrire. Parce que l'écrit est forcément limitatif. Pas réducteur, mais l'écrit condense, ne peut pas reproduire exactement le vécu, c'est capital. Et donc il y a là aussi la figure littéraire de l'hyperbole, hein, qui reviendra tellement, pour moi c'est un des points d'attache avec l'Apocalypse, l'hyperbole et l'oxymore, ce sont les deux genres, les deux figures stylistiques littéraires favorites de l'Apocalypse, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est là-dessus que se termine le quatrième évangile. Il y a encore beaucoup d'autres choses que fit Jésus et qui, si on les écrivait une à une, le monde lui-même n'en contiendrait pas les livres qui pourraient en être écrits. Donc, au fond, le livre est ici présenté à la fois comme une médiation indispensable et en même temps comme une médiation qui doit conduire, en fonction même de sa définition de médiation, à l'immédiateté avec Dieu, le Père, en son Fils, dans le croire. Amen, alléluia, je vous souhaite bonne continuation cette année.